nous, on va pas forcément défendre la création de pistes cyclables à la masse critique. C'est pas forcément voilà, un enjeu majeur de la masse critique. Nous, ce qu'on veut juste, c'est rappeler pourquoi les vélos ont leur place sur le bitume, parce que, parce que c'est un véhicule comme les autres, et que justement, s'il n'y a pas la place de doubler pour une voiture, il faudra qu'elle reste derrière, parce que son âge d'or est sur le point de se terminer, et qu'il va falloir laisser la place aux autres modes de déplacement. Là, on est en pleine période de crise du capitalisme qui est aux abois. On le voit bien politiquement en ce moment. Donc la voiture, qui est un des symboles du capitalisme, forcément, s'accroche aux artères de la ville. C'est un peu comme le cholestérol, quand il y en a trop, ça bouche les artères. Et donc du coup, pour éviter la crise cardiaque, on essaye de renverser la tendance, de fluidifier un peu avec les vélos. Mais du coup là, on a atteint un peu un plafond là. Et donc depuis 2020, effectivement, il y a eu pas mal de vélos là, mais ça continue à augmenter petit à petit. Mais il y a pas mal de gens qui sont mis au vélo, je pense, grâce au vélo électrique justement. Mais le vélo électrique,
On peut le questionner aussi.
Ça amène un autre problème, c'est que ça amène de la vitesse. Ça amène de la vitesse. Et là, on est bien au-delà de la vitesse conviviale dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'on atteint des 30-35 km/h, même si l'assistance est censée s'arrêter à 25 km/h. Mais avec de l'inertie, on peut rouler bien plus vite. Et du coup, le problème, c'est que la vitesse amène de l'agressivité, en fait. Comme les automobilistes sont agressifs avec les autres usagers, parce qu'ils ont une puissance sur le capot, parce qu'ils ont souvent ils deviennent agressifs à cause de ça. À cause de la vitesse qu'ils ont et qu'ils peuvent pas utiliser, ça les frustre forcément, ils sont énervés. Les vélos électriques, malheureusement, souvent adoptent un comportement similaire aux automobilistes. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se plaignent des vélos électriques sur le canal, par exemple, la voie cyclable le long du canal, sur certaines pistes cyclables où justement les gens klaxonnent en permanence pour doubler tout le monde. J'ose même pas parler d'Alsace-Lorraine parce que ça c'est un peu le point noir de la ville où justement il y a le melting pot là de tout le monde qui roule à fond entre les trottinettes, les vélos électriques, les vélos normaux, les livreurs, tout ça. Donc là, l'espace public, là, il est complètement mité. Ils peuvent venir à la masse critique, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais il faudra qu'ils roulent à notre vitesse, bien sûr. Il va falloir peut-être que les politiques s'occupent de ce problème-là aussi, effectivement. Sinon, on va remplacer un problème par un autre, finalement.
Alors, restons justement sur les politiques, là, parce que l'organisation des villes sont pensées en termes de circulation, domicile-travail, et donc un flux continu et le moins ralenti possible par la voiture. Comme tu l'as dit, évidemment, la masse critique conteste la présence physique et symbolique de la voiture en ville. Et c'est intéressant de voir aussi comment progressivement l'idée d'adaptation et de présence du vélo en ville, c'est-à-dire au début, ça a été mis un peu avec les bus. C'est-à-dire les bus, déjà, ont freiné un peu cette fameuse circulation vers le travail, vers le monde du travail. Donc les automobilistes râlaient, évidemment. Après, les vélos sont arrivés, on les a mis avec les bus. En se disant, on ne sait pas où les mettre. Et malgré tout, comme il ne faut pas nuire, ce mouvement continue, on les met maintenant un peu sur le trottoir, ce qui crée évidemment plein de situations un peu chaotiques et de tensions. Il n'y a pas un risque que les villes récupèrent justement cette dynamique un petit peu cycliste sans remettre en cause la domination automobile. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu le cœur du sujet. Et c'est vrai que je me demandais s'il y avait une version un peu bike-washing, comme il y a la version du greenwashing. Et donc, en gros, est-ce que les politiques autour du vélo, que ça peut aussi devenir un outil de communication verte sans transformation profonde?
Moins de bouchons, moins de pollution. Le vélo présente bien des avantages et pourtant, il représente moins de 2% des trajets pour se rendre chaque jour au travail. La France, qui fait figure de lanterne rouge derrière ses voisins européens, tente de rattraper son retard. Ce vendredi, le Premier ministre a dévoilé le plan du gouvernement à Angers. Autre axe de proposition, mettre à contribution les employeurs qui pourraient donner un coup de pouce financier aux salariés qui ont choisi ce mode doux.
Vous avez une nouvelle ?
Malheureusement, je pense que oui, parce que les pistes cyclables, ça peut être vu comme... en tout cas, le peu de travaux qui sont faits, tu vois bien, là, on a quand même une mairie de droite. Qui se permet de faire des pistes cyclables, alors qu'en théorie, c'est pas le cœur de la politique des droites de faire des pistes cyclables. Donc on voit bien qu'il essaye, par exemple, de montrer qu'il s'intéresse quand même, on va dire, au peuple bobo écolo de gauche qui fait du vélo. Enfin, si c'est pour faire des gros traits, bien sûr. Et puis, de toute façon, en plus, c'est un bon côté, parce que des pistes cyclables, ben, oui, ça fait fonctionner le monde du BTP, hein, derrière, donc ça fait fonctionner les copains, quand même. Mais, de toute façon, la loi n'est pas faite en faveur des vélos, hein. Pour l'instant, la loi, juste, elle impose, normalement, hein, lorsqu'il y a la réfection d'une artère complète, hein, mettons, là, on a eu, je sais pas, le tramway sur des hauts d'Alsévrac ou ce genre de choses, dire, ben, normalement, voilà, vous devez penser à faire une piste cyclable en bonne et due forme. Après, une piste cyclable, normalement, ça doit respecter certaines normes. Il y a un institut en France qui s'appelle le CEREMA qui édicte des normes qui sont pas si mal, mine de rien. Faites un peu avec le terrain, quand même. Hein. C'est des techniciens qui vont voir si ce qu'ils édictent comme normes marche bien. Derrière ça, bah, les mairies elles prennent le livret « Je fais une piste cyclable dans ma ville », mais ils prennent un peu ce qui les arrange, finalement, parce que forcément, il y a toujours des questions de coûts, hein, ça c'est sûr. Et des questions d'espace physiquement présent dans cette artère. Et donc parfois, bah, on se retrouve avec des pistes cyclables qui sont là, qui existent sur la carte des pistes cyclables et qui existent dans les kilomètres de pistes cyclables construites sous le mandat d'un tel. Hein, donc ça fait bien dans les papiers.
Ouais, carrément.
Mais réellement, après, quand on roule sur ces pistes cyclables, bah, elles sont pas forcément pratiques. Elles sont même parfois dangereuses. Donc c'est un peu du gaspillage d'argent public. Et effectivement, derrière, on peut avoir un bike washing en disant « Regardez, les vélos, ça coûte tant aux finances publiques, il faut arrêter de financer les vélos. » Plutôt, voilà, le bashing.
Alors, green bashing, alors. Ouais.
Voilà, green bashing, voilà, je cherchais le terme.
Ouais.
Qui actuellement, hein, de toute façon, c'est un mouvement général hein, du capital qui veut absolument reprendre le contrôle sur le productivisme. Donc, ils veulent bien faire des cyclables si ça rapporte de l'argent à quelqu'un. Donc, voilà. Et si c'est juste pour... aider les cyclistes à aller d'un point A à un point B et que ça améliore en rien la productivité des personnes, là, ils ne voient pas trop un gros intérêt. Ils disent, on va pas faire des pistes cyclables pour que les gens ils arrêtent de prendre leur voiture et qu'ils arrêtent d'acheter de l'essence et des voitures. C'est quand même embêtant. Après, bon, les pistes cyclables peuvent être intéressants, par contre, à la campagne. Ça, c'est sûr que c'est intéressant parce que malheureusement, à la campagne, on ne va pas demander aux gens de rouler à 30 km/h sur les départementales. Ça paraît un peu insensé. Si il y a des départements qui peuvent financer des itinéraires cyclables en parallèle ou plus ou moins en parallèle de grandes départementales qui relient des villes et villages, ça c'est intéressant par contre. Ça c'est intéressant. Alors c'est bien sûr hein, que ça coûte un peu d'argent, hein, mais ça peut se faire. Bon, après, quand on voit qu'on est prêt à jeter de l'argent par les fenêtres pour des autoroutes qui servent à rien, on dit qu'il y a quand même encore un petit peu d'argent. Hein. Et d'ailleurs, dans le projet alternatif de le 69, il y a tout un itinéraire cyclable qui est prévu entre Castres et toute la vallée du Girou là qui descend jusqu'à Garrigues. Ça fait partie des projets parce que le vélo à la campagne, ça peut être un moyen de déplacement hein, pour le travail, mais c'est aussi bien sûr un moyen de loisirs, de sport qui peut être intéressant.
C'est vrai que moi j'ai une vision liée à la ville en fait, du vélo, mais c'est hyper intéressant aussi de le réfléchir dans un cadre plus rural où, oui, la voiture reste quand même une nécessité pour plein de gens, puisque coût de déplacement, d'éloignement, mais peut-être que s'il y a des infrastructures liées au vélo, ce serait peut-être plus un réflexe. Donc oui, il faut quand même aussi que le vélo, à travers les pistes cyclables, et là c'est vraiment une question de dangerosité, et sa place également en milieu rural.
Enfin là, le sentiment d'insécurité en la campagne est encore plus élevé, parce que si on se fait frôler par des semi-remorques qui roulent à 90, enfin là on peut même tomber, hein, parce qu'on peut être soufflé par le véhicule. Bon, des fois la visibilité n'est pas toujours bonne, bon, même si la loi impose d'avoir des gilets jaunes, machin, tout ça, pour améliorer, mais malheureusement, le plus de décès cyclistes, c'est à la campagne, justement. Et le pire, c'est que c'est pas forcément des gens qui se déplacent, c'est beaucoup de gens qui font du sport à vélo, justement, des cyclistes de route, qui se déplacent en peloton, et là, par contre, des fois, c'est des morts, mais dus à vraiment des mauvaises intentions, des gens qui, énervement envers des cyclistes, se mettent à leur couper la route, ou les mettre volontairement dans le fossé pour se venger d'un quelconque ralentissement qu'ils ont eu un jour dans leur vie avec leur voiture. Donc ça, par contre, c'est assez choquant. Pour revenir à la ville, là, on peut considérer qu'il y a du bike washing parce que c'est pas forcément la priorité de changer de couleur de bitume, de passer à noir, à rouge ou vert, juste pour dire que ça va améliorer le déplacement en vélo, je veux dire.
Donc le problème, c'est pas l'aménagement, mais les gens. Alors j'en profite pour clarifier la situation sur les aménagements cyclables obligatoires, parce qu'il y a plein d'idées reçues et que c'est pas si intuitif que ça finalement. Les aménagements cyclables obligatoires sont en fait beaucoup plus rares que vous l'imaginez. Et s'il en existe, ils sont présents que dans deux cas de figure. Le premier, c'est si l'aménagement cyclable est dans un contresens de la circulation. Et le second cas de figure dans lequel on peut retrouver des aménagements cyclables obligatoires, c'est le long des voies rapides. Mais c'est beaucoup plus rare et c'est pas systématique. Et étant donné que la limite de vitesse est de 30 et que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plus en plus de villes en France, cette obligation d'utiliser des aménagements cyclables quand on roule dans le même sens de circulation que les autres véhicules va être de plus en plus rare dans les zones urbaines. Et surtout que cet aménagement cyclable n'est pas obligatoire, il faut absolument un panneau rond pour qu'il le soit. Par contre, la différence c'est que ces aménagements sont exclusivement réservés aux cyclistes EDPM et cyclomobile léger. Il est donc interdit pour les autres usagers d'y circuler, de s'y arrêter ou d'y stationner.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Oui.
Pourquoi vous êtes obligé de toucher ma voiture quand vous passez?
J'ai perdu l'équilibre monsieur, vous êtes sur la piste cyclable. J'essaye juste d'accéder. Parce que là, vous voyez, je peux pas passer sinon. Il n'y a pas de place.
Et vous pouvez pas faire le comptoir derrière le plot, non?
Est-ce que vous pouvez vous garer de l'autre côté du plot, monsieur? Ouais, parce que j'ai exactement le même argument pour vous, en fait. Ouais, si vous vous garez là, moi, j'ai pas de problème avec votre voiture. C'est ça.
Finalement, que tout ce qu'on a parlé avant, c'est matériel, mais par contre, changer la culture de la vision des gens qui ont envers le vélo, ça demande beaucoup d'éducation, de pédagogie, et ça peut prendre des années, par contre. Parce que effectivement, on a tellement lancé un mépris du vélo depuis les années 50 en disant non, ça, c'est le déplacement de l'ancien temps, prenez votre voiture, c'est beaucoup mieux. Que ça s'est transformé en haine du vélo, effectivement, pour certaines personnes. C'est un courant un petit peu voilà réactionnaire hein, de certains automobilistes hein, qui est dans le courant qu'on voit un peu global, hein, réactionnaire. Donc,
Les nouvelles formes, je dirais, de sociologie. Là, tu parlais des automobilistes avec les vélos, mais restons un petit peu sur les nouveaux cyclistes. J'ai l'impression que le vélo, c'est aussi devenu un marqueur... social, voire identitaire, qui a aussi un phénomène de gentrification. Moi, depuis toujours, en fait, j'ai pensé le vélo comme un outil vachement plus large de transformation de nos vies. Ça a toujours été politique pour moi, le vélo. Faire du vélo, c'est un positionnement. Aujourd'hui, toi, tu m'as parlé tout à l'heure, avec le développement massif des vélos électriques, donc une dépendance à une industrie énergétique lourde, évidemment, le nucléaire. Il y a des modèles ultra chers en fait. Tu évoquais le canal tout à l'heure. Moi j'habite à côté. C'est des autoroutes à vélo en fait qui sont pensées pour optimiser les trajets domicile-travail à vitesse grand V en fait. Et je me demande si progressivement le vélo, là, ce vélo qu'on aime tant, ça ne devient pas un outil d'intégration à un modèle productiviste ultra aliénant dont on essaye de se défaire et dont on essaye d'amener une critique.
Ah oui, bah c'est sûr, parce que bah, comme n'importe quel objet du quotidien, on peut très vite le déformer, hein, comme n'importe quel outil. C'est vrai que pendant longtemps, on a jugé que les gens qui se déplaçaient à vélo, c'était plutôt des gens pauvres, voilà, parce qu'ils n'avaient pas de voiture et que c'était le véhicule du pauvre, que la personne qui arrivait en vélo au travail, on lui dit mais t'es sûr, tu veux pas que je t'accompagne, t'as un peu l'air d'un loser quand même,
tu veux pas que je te prenne
dans ma voiture, t'as l'air tout trempé,
le tocard loser, non mais c'est vraiment
donc,
ça quoi.
Mais heureusement, le monde capitaliste a pensé à tout, a dit mais non, attendez, on va faire des vélos électriques comme ça, même les riches pourront faire du vélo, mais sans transpirer.
Ouais.
Et donc après, il y a tout un tas d'accessoires pour éviter d'être mouillé et tout ça, bon ça à la limite c'est assez normal, mais... Mais le vélo électrique, surtout, ça a permis de effacer cette honte d'arriver plus lentement que ses collègues qui arrivaient en voiture. Parce que finalement, les collègues qui étaient en voiture, ils étaient bloqués dans les bouchons. Donc, ils arrivaient presque en même temps que certains cyclistes qui passaient par les itinéraires cyclables. Bon, là, c'est bien. Maintenant, ils arrivent plus vite. Mais surtout, ils n'ont pas transpiré. Ça, c'est important. Oui, là, on a fait des vélos électriques qui sont quand même très chers. Hein, plus chers que certains deux roues thermiques. Donc parfois on peut quand même se poser la question quel est l'intérêt financier, enfin économique pour une personne d'acheter ça. Ben en fait l'intérêt là il est pas financier, là il est d'apparence sociale parce que là du coup on a une personne qui va dire mais regardez moi je pense à la planète, j'ai acheté un vélo électrique, je ne déplace plus en voiture, voilà. Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un vélo électrique du coup on leur fait des coups de sonnette pour leur dire écarte-toi parce que moi il faut que j'aille bosser. Hein, c'est un peu que la phrase qu'on entend quand on fait des manifs ou quand on fait des masses critiques, poussez-vous, il y en a qui bossent. Mais les vélos électriques, je crois, c'est un peu la même chose qui se reporte, malheureusement. ça devient un marqueur social, effectivement, où il y a ceux qui ont des vélos électriques qui roulent super vite, hein, parce que là, on a même des vélos électriques maintenant qui sont hors la loi et donc qui peuvent rouler quasiment comme un cyclo, donc à 50 km/h, ce qui est beaucoup hein, quand même pour un vélo. Donc en théorie, pour qu'ils soient dans la loi, il faudrait que ces vélos-là ils aient une plaque d'immatriculation, une assurance, et surtout qu'ils ne roulent pas sur les pistes cyclables, qu'ils roulent sur la route. Parce qu'au-delà de 25, en fait, on ne devrait pas rouler sur la piste cyclable, on devrait rouler sur la route, hein, comme tout le monde. Mais c'est pas le cas, et du coup, ils mettent en danger les gens, ils leur font comprendre qu'ils n'avancent pas, et en plus, c'est pas légal. Donc c'est comme le monde de la voiture, hein, y a des voitures moins chères, des voitures plus chères, là il y aura des vélos clinquant à 2, 3, 4 000, ça va jusqu'à 10 000 euros des fois le vélo électrique. Donc c'est assez délirant, effectivement, mais on voit que le marché du luxe a su s'adapter à la demande. Voilà, c'est... comme d'habitude.
Vas-y, Louison ! Louison, 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 bébé ! Louison, 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 bébé ! Louison, bébé ! Oh, vas-y, Louison.
De vos textes, vous parlez de l'empreinte carbone négligeable du vélo, ainsi que l'absence de pollution atmosphérique et sonore causée. Tu as beaucoup insisté aussi sur la lenteur. Il donne un rapport environnement au temps, être à contre-courant de la promotion des valeurs de la société actuellement. On parle pas de lenteur, que de vitesse, d'accélération, de gain de temps, etc., etc. Vous, en tant que masse critique, comment tu amènes cette idée d'écologie?
Comme tu disais, la lenteur, oui, c'est quand même un acte politique maintenant de vouloir aller plus lentement que le reste du monde autour de soi. Donc, comment amener la question écologique? Si on décide de ne pas franchir le pas, de ne pas prendre un vélo électrique, là, de nos jours, on a l'impression que c'est un choix compliqué à faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent... moi, je ne ferai pas de vélo si je prends pas de vélo électrique. Okay. Bon, c'est bien dommage, parce que malheureusement, un vélo électrique, justement, de nos jours, on peut plus appeler ça un vélo. Hein. On appelle ça un cyclo électrique, hein, parce que c'est comme un cyclomoteur, mais électrique, parce qu'il y a des gens qui se permettent de faire du vélo électrique sans même pédaler, je veux dire. Donc, ça devient comme un scooter. Donc, le côté écologique, c'est ça. C'est vraiment de faire avancer sa monture à la force du mollet. C'est qu'on a un moyen de déplacement qui n'a pas besoin d'énergie externe. Voilà. Donc, sans vouloir penser à la fin du monde, hein, on n'en est pas là. On va pas faire Mad Max à vélo tout de suite. Même si, malheureusement, c'est des choses qu'on peut envisager. Hein, parce qu'en cas de crise pétrolière, le vélo, il est encore là. Hein, et le vélo électrique, il pourra pas fonctionner parce que l'énergie vient principalement du nucléaire en France, certes, mais ailleurs dans le monde, c'est pas forcément le cas. Hein. Il y a besoin de pétrole, de charbon, différentes industries polluantes pour avoir cette énergie. Donc effectivement, rester avec un vélo qui fonctionne uniquement à l'énergie humaine, c'est un choix. C'est un choix, effectivement. Il y a quelques années, effectivement, le vélo électrique c'était vu comme un gadget, comme quelque chose de superflu. On pouvait penser éventuellement que ça allait concerner que quelques personnes fortunées, mais comme beaucoup de gadgets électroniques fabriqués à l'autre bout du monde, ça, les prix ont fini par baisser, donc ça a fini par arriver au plus grand nombre. Et donc, beaucoup de gens cèdent à la tentation, hein, comme les trottinettes électriques, les voitures électriques, ou les smartphones, enfin tous ces gadgets polluants et pas forcément nécessaires à notre vie quotidienne. Mais d'un autre côté, effectivement, malheureusement, il y a des partisans du vélo électrique qui vont dire qu'est-ce qui vaut mieux, une voiture ou un vélo électrique? Le dilemme existe, c'est sûr, mais dans tous les cas, les deux polluent, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Ça...
on noie le poisson parce que il n'y a pas de pot d'échappement sur un vélo électrique. Oui, mais le pot d'échappement, c'est la cheminée de la centrale nucléaire qui est à 200 km. Donc, il y a une émission de... centrale nucléaire, c'est une émission de vapeur d'eau, mais ça crée des risques de sécurité. Et de toute façon, on sait très bien comment fonctionne la production nucléaire entre les conflits que ça crée à l'autre bout du monde pour l'approvisionnement. Mais le vélo électrique, c'est un vélo nucléaire, effectivement, en France, on peut dire ça comme ça. Donc, ça peut aller très loin dans la critique du système, juste en restant avec un simple vélo. Oui.
Elle est silencieuse, elle ne fume pas, elle a souvent un logo vert ou un nom qui évoque la nature. Elle, c'est la voiture électrique. Le fantasme ultime d'une mobilité propre, d'un avenir sans CO2, sans pétrole, sans culpabilité. Mais si je vous disais que derrière cette image écolo se cache un monstre de pollution, bien planqué à l'autre bout du monde, bienvenue dans l'ère du greenwashing à batterie lithium-ion. Parce que non, une voiture électrique n'est pas propre, elle est juste discrètement sale. Elle pollue, mais à la fabrication, elle détruit, mais loin de chez nous. Elle émet du CO2, mais dans des pays qu'on ne regarde jamais dans les bilans. Pour produire une batterie lithium-ion, il faut du lithium, du cobalt, du nickel, du manganèse, du graphite. Tous ces métaux doivent être extraits, souvent dans des conditions environnementales et sociales déplorables. Un exemple, extraire une tonne de lithium peut nécessiter jusqu'à 2 millions de litres d'eau. En Amérique du Sud, cela assèche des zones déjà arides. La transition verte, c'est donc aussi la transition de l'eau potable vers la poussière. Et pour extraire tous ces métaux, il faut déplacer des millions de tonnes de roches, générer des déchets toxiques, polluer des nappes phréatiques et relâcher des poussières métalliques. Sans parler de l'énergie consommée par les engins d'excavation, les usines de raffinage et les transports intermédiaires.
Donc, la masse critique, c'est chaque dernier vendredi du mois, 18h30, devant le Capitole, parce que c'est extrême centre et ça permet un peu d'improviser sur l'itinéraire.
Donc là, on espère être nombreux, hein. Peut-être plus nombreux que d'habitude, soyons fous. On verra. Ce sera devant le théâtre du Capitole. En général, on précise bien devant le théâtre du Capitole, parce que la place est vaste. Hein, parce qu'en général, c'est souvent l'endroit qui est un peu préservé, même s'il y a des gros événements sur la place. En général, ils laissent ce espace-là un peu libre, parce que il faut que les gens puissent rentrer au théâtre quand même. Donc on se met là, et on en profitera pour faire un petit hommage à Fabrice. Puis après, on partira sur les routes de notre Toulouse, et puis on verra où ça nous mène. Ouais, on n'a pas de point de chute encore. Ça se décide sur place. Si des fois il y a des gens qui ont des idées de soirée ou d'endroit.
Tu t'occupes de la sono, t'as une playlist de références autour du vélo ou...
Oui, alors il y a quelques références qu'on peut trouver des fois sur un site là, qui s'appelle le Wiklou, par exemple. Le Wiklou, c'est une encyclopédie des vélos qui a été créée par la Fédération des Ateliers des Vélos. Là. Et donc il y a une page concernant la masse critique où justement il conseille quelques chansons un peu militantes sur le vélo, mais voilà, je me suis permis de puiser un peu là-dedans. Et alors, j'essaie que ça soit globalement en français, et festif et un peu militant pour que ça soit accessible à tous. Mais c'est un vrai métier, hein, DJ. DJ de masse critique. Je vous invite à regarder comment se passe la masse critique de Bruxelles, parce qu'ils ont quand même un niveau largement supérieur.
Ils sont trop forts à Bruxelles.
Ils sont entre 800 et 2000 personnes. Et donc, ils en sont venus à avoir un DJ, directement un vrai DJ, ou DJette, hein, ça dépend du moment, sur une remorque, avec ses platines, ses enceintes, et qui fait un mix en direct. Et je ne sais pas si on arrivera à ce niveau-là un jour. Je souhaite de tout cœur. Je ne sais pas si je serai encore là à ce moment-là, quand on arrivera à ce niveau-là. Mais ça serait vraiment chouette de pouvoir faire ça. On verra.
Xavier, merci. Bonne fin de journée à toi. À bientôt, alors.
Ouais, ça marche. Ça roule. Allez, à bientôt.
Ouais, salut. Ciao, bye.
Ciao.
Ce que je demande n'est pas difficile. Il me faut deux roues, un cadre et quelqu'un, un rayon qui tourne.
Piéton traversé.